Je vous propose le commentaire de ce passage tiré de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. En voici la lecture. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur » pour la gloire de Dieu le Père. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons ici une hymne qui n'est pas de saint Paul lui-même, mais qu'il reprend, une hymne qui était chantée par les tout premiers chrétiens. C'est un des passages les plus anciens du Nouveau Testament. Et c'est un grand réconfort. En cette période, comme d'ailleurs dans bien d'autres périodes de l'Église, on remet beaucoup en cause la divinité de Jésus, notamment en utilisant de manière fallacieuse les Écritures. Je pense notamment aux témoins de Jéhovah et bien d'autres sectes. Ils veulent nous faire croire que Jésus, selon les Écritures, n'est pas Dieu. Voilà un beau démenti, et ça dès les premiers instants de la communauté chrétienne. Donc voilà qui en dit long. Mais je vous propose de rentrer plus avant dans ce texte. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu. C'est très révolutionnaire. Imaginez-vous qu'avant la foi chrétienne, personne n'aurait imaginé un Dieu autre que Dieu, un Dieu solitaire, qui se tient, disons, seul face à l'humanité. Et quand saint Jean dit dans son épître « Dieu est amour », on s'imagine facilement, et c'est vrai aussi, Dieu est amour parce qu'il aime les hommes. Mais c'est plus profond que ça. Dieu est amour parce qu'en lui, il y a amour. Mais pas amour... Si, justement, il y a amour qui se donne, parce que l'amour, c'est se donner. Eh bien, cet amour qui se donne en Dieu, c'est un mystère. Mais il est relation, comme nous allons le voir. Le Père, dans son grand amour, a toujours eu cet élan de se donner, de se donner. Cet élan de se donner, eh bien, était tellement fort. Je dis « était », mais c'est de toute éternité, bien sûr. Il n'y a pas eu un commencement. Donc, utilisons plutôt le présent. Cet élan de se donner est tellement fort, il est tellement personnel de la personne du Père. C'est lui, cet amour qui se donne, que cet amour est lui-même une personne. Et comme Dieu, le Père, ne peut aimer vraiment que d'un amour, disons, caractérisé par la liberté, parce qu'il n'y a pas d'amour sans liberté pour l'être aimé, eh bien cette personne qui est l'élan d'amour du Père qui veut se donner est forcément libre. Cette personne sort de Dieu. C'est cet amour de Dieu qui sort de ses entrailles. C'est à juste titre que l'on appelle le Fils. Le Fils libre. C'est bien pour ça que ce texte nous dit « Lui qui était dans la condition de Dieu n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être à l'égal de Dieu. » C'est un très grand mystère. Car certes, dans la Trinité, il serait faux d'imaginer une relation de... comment dire... de pouvoir. Une relation teintée par les rapports de force. Bien sûr, cela est impossible. Mais... cela est théoriquement possible, parce que dans la Trinité, il y a la liberté. Mais ce qui fait que ce théoriquement possible n'arrivera jamais, c'est que l'amour entre le Père et le Fils est parfait. Le Père aime son Fils parfaitement, le laissant parfaitement libre, et le Fils se laisse aimer parfaitement par son Père, donc il lui obéit. Alors le terme « obéir » ici, c'est à comprendre comme se laisser aimer. Car le Père se donne personnellement. C'est quelque chose qui vient de ses entrailles, librement, c'est son Fils, son vis-à-vis, qui laisse libre face à lui. Et ce Fils se laisse aimer parfaitement par son Père, se laisse engendrer parfaitement par son Père, et donc il ne peut que lui obéir, c'est-à-dire se laisser aimer. Pour vous aider un petit peu plus, je vous propose une analogie qui est bien imparfaite, mais que saint Augustin a utilisée dans son De Trinitate, donc son traité sur la Trinité. Nous sommes faits à l'image de Dieu, et parfois nous-mêmes, nous projetons hors de nous-mêmes. Je veux dire par là que il arrive que nous parlions tout seuls de nous-mêmes. Il est très fréquent que nous projetions cette image de nous-mêmes hors de nous-mêmes, en disant « Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu es bête? Alors, je pense que je devrais faire ça. » Eh bien, cette image de nous-mêmes à laquelle nous nous adressons, elle est nous-mêmes. Dans un certain sens, elle est aussi différente de nous-mêmes. Eh bien, en Dieu, c'est la même chose, si vous voulez, qui se passe, mais à des degrés infiniment plus grands, où le Fils n'est pas une simple projection du Père, mais il est, on pourrait dire, une projection bien vivante du Père, avec ce pouvoir de lui obéir ou de revendiquer son égalité par rapport à son Père. Voilà quelque chose qui peut vous aider. Alors continuons, donc j'insiste, l'amour qui se donne est l'amour qui reçoit et qui donne en retour, c'est le Père et le Fils. Et cet amour tellement fort qui se donne et qui reçoit engendre une communion tellement parfaite, tellement forte, tellement personnelle qu'elle est elle-même une personne. Cet amour du Père pour le Fils, du Fils pour le Père, c'est l'Esprit Saint. Un petit peu à l'image d'un soupir, car quand nous aimons quelqu'un, nous soupirons après l'être aimé. Comme ça. Eh bien, c'est le véritable sens de esprit en latin, qui vient du mot hébreu, enfin, qui est la traduction de roi en hébreu, qui veut dire le vent. Eh bien, le Père et le Fils, finalement, soupirent un après l'autre. C'est comme ce souffle, ce baiser de l'un pour l'autre, comme disait saint Bernard. Et c'est tellement fort, c'est tellement personnel, que cela donne une personne libre, comme nos enfants, qui sont le fruit parfait, espérons-le, enfin rien n'est parfait, mais c'est ça que ça devrait être, de l'amour que nous avons pour nos épouses, ou nos épouses pour nous, pour les gens mariés. Alors, continuons. Mais au contraire, il se dépouille à lui-même en prenant la condition de serviteur. Vous voyez, beaucoup de gens imaginent, ont du mal avec la Trinité, je ne dis pas que moi-même j'ai beaucoup de mal, parce que c'est un mystère. Mais disons, ils se laissent arrêter par des considérations bien humaines. Hein. On imagine souvent un rapport de force. Mais si on aime le Fils, on n'aime pas vraiment le Père, on lui fait de l'ombre, etc. Mais quand on s'aime vraiment, aimer celui... Si quelqu'un aime quelqu'un que j'aime, je n'en aimerai que plus pour ça. Je ne vais pas être jaloux. En Dieu, il n'y a pas de jalousie. Alors, mais au contraire, donc, il se dépouille à lui-même, en prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, à mourir sur une croix. Le Fils se reçoit du Père, et donc il reçoit sa mission. Et je ne peux pas m'empêcher d'admirer l'humilité du Père, parce que le Père, donc, a voulu que cet amour qui sort de lui, qui se donne, soit une personne, et c'est comme s'il s'effaçait derrière cette personne qui va manifester pleinement son amour à lui. Cette personne, d'ailleurs, est tout aussi humble, le Fils, puisqu'il va exercer cet amour au nom de son Père. C'est bien pour ça que dans l'Évangile, Jésus dit qu'il fait toutes choses au nom du Père et qu'il se nourrit de la volonté du Père. Mais regardez cette humilité. Le Père s'efface derrière le Fils pour qu'il lui manifeste son amour en son nom. Nous-mêmes, nous avons bien du mal de nous effacer souvent. Nous voulons nous mettre en avant. Ce n'est pas le cas du Père. Et le Fils va aimer au nom de son Père. Lui aussi s'efface devant son Père. Eh bien, c'est ça l'amour de la Trinité, c'est ça le Saint-Esprit, cet amour vivant qui est comme le sceau de l'amour du Père et du Fils. En Dieu, cet amour est parfait, pas de jalousie, mais une unité de volonté et de réciprocité. Alors cet amour, vous voyez, c'est quelque chose de très beau parce que nous en sommes les premiers bénéficiaires. Dieu, donc, a cet amour qui sort de lui, c'est son Fils. Et comme dans un prolongement, il y a la création au sommet de laquelle nous, les hommes, nous sommes. Donc le Père, c'est comme si il nous enfantait avec son Fils. par son Fils. Donc nous sommes vraiment les enfants du Père, à ce titre, nous sommes le fruit de l'amour du Père et du Fils. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et le fruit de cet amour, c'est aussi l'Esprit Saint. C'est bien pour ça que l'Esprit Saint est associé à l'Église. Nous sommes habités par l'Esprit Saint en ce sens que nous sommes enfants du Père et du Fils. C'est quelque chose d'extraordinaire. Imaginez-vous, êtes-vous pleinement conscient que le Père, par son Fils, a voulu nous enfanter, il a voulu nous mettre au sommet de la création, il a voulu se donner pleinement à nous les hommes, et pas n'importe comment, parce qu'un amour qui veut se donner pleinement se met vraiment à la portée de celui qui l'aime. C'est bien pour ça que Jésus est devenu homme. L'incarnation, c'est l'amour par excellence de Dieu pour nous. Donc si vraiment Dieu nous aime de la sorte, même dans les difficultés, nous devons vraiment, vraiment être conscients que Dieu ne nous abandonne pas, qu'il veille sur nous. Et que s'il y a des difficultés, c'est souvent à cause du mauvais usage que nous faisons, ou nos frères, hein, parce que nous sommes aussi dans le monde, nous faisons ou nos frères de la liberté que Dieu nous donne, comme il l'a fait pour son Fils. Car Dieu ne sait pas aimer, oui on peut dire ne sait pas aimer, parce que sans nous donner la liberté, parce que si Dieu est amour et que l'amour c'est intrinsèquement la liberté de l'autre, oui Dieu ne peut pas, ne sait pas aimer autrement parce que Dieu est amour. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut bien comprendre. C'est bien pour ça que souvent nous ne comprenons pas que Dieu soit si lent pour la souffrance dans le monde et ces choses-là, mais parce que Dieu est amour. Et que Dieu, son mode d'action, c'est l'amour. Son mode d'action, c'est la croix. Son mode d'action, c'est son Fils. Et son Fils, ça a donné la croix. Son mode d'action, c'est l'amour. Et si son mode d'action, c'est l'amour, il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit aux autres. Ça doit aussi nous servir de leçon dans nos rapports avec nos frères, comme nous allons le voir. Mais tout d'abord, revenons à devenu semblable aux hommes. Jésus n'a pas triché. Il a été pleinement homme, se faisant homme comme nous, avec les limitations physiques et parfois psychologiques que cela contient, car Jésus n'avait pas la prétention de savoir des choses qui n'étaient pas utiles à sa mission. Je ne pense pas que Jésus à l'époque, c'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, aurait pu vous faire tout un laïus sur la relativité d'Einstein, etc., parce que ce n'était pas dans sa mission et qu'il était pleinement homme. Jésus n'a pas triché. C'est bien pour ça d'ailleurs, et c'est quelque chose qui déroute un peu certaines personnes, que quand Jésus parle des Écritures, notamment les 5 premiers livres de la Bible, il parle des livres de Moïse, alors que maintenant nous savons que ces livres n'ont pas été écrits, ou du moins loin de la totalité, par Moïse lui-même. Mais Jésus a assumé la culture de son époque, avec son langage, ce qui explique des fois que nous avons du mal à comprendre certaines paroles dures de Jésus, mais sa langue, son langage, était bien plus rugueux que le nôtre. Donc il faut s'en souvenir. Donc Dieu s'est fait homme, il s'est fait proche de nous, il n'a pas triché. Cet amour de Dieu se donne pleinement à l'être aimé, et pour ça il se met à son niveau pour une communion pleine et entière. C'est bien pour ça que cet amour de Dieu s'est manifesté dans l'incarnation. Dieu est à nos côtés. Par Jésus, l'amour de Dieu se fait personnel, se fait partage de notre vie. Il faut nous en souvenir dans les difficultés. En Jésus, nous avons un ami. Nous avons l'amour de Dieu fait ami. Et on nous dit qu'il est devenu obéissant jusqu'à mourir, à mourir sur une croix. Ça, c'est vraiment douloureux, parce que cet amour de Dieu n'est pas aimé. L'homme se gausse d'aimer l'amour, il parle beaucoup d'amour, mais de quel amour? C'est saint François d'Assise qui, semble-t-il, disait « l'amour n'est pas aimé ». Quelle triste réalité. Parce que vraiment, si l'amour était aimé, Jésus n'aurait pas terminé sur la croix. Cet amour que Dieu nous donne, cet amour que Dieu veut nous manifester, est ridiculisé, est sali. Parce qu'on se moque encore de l'évangile de Jésus, on se moque de beaucoup de choses. Et à l'époque de Jésus, ça a été pareil. Cet amour de Dieu, cette main que Dieu nous tend, dans notre liberté, nous la refusons, bien souvent, pour de mauvaises raisons, ou parfois par ignorance, et cet amour, l'humanité, bien souvent crache sur cet amour, lui est hostile, parce que l'amour n'est pas aimé. Et ça a été très loin, puisque Jésus a assumé ce refus de l'humanité par rapport à l'amour de Dieu, il a assumé, il a pris sur lui tous nos refus, toutes nos méchancetés, à un tel point que cela ne pouvait terminer que très mal pour lui, parce que en lui a été comme condensée toute cette haine de l'humanité pour Dieu, qui a été engendrée par le démon, c'est la chute. Et bien c'est bien pour ça que Jésus a terminé sur une croix. Mais grâce à cette croix, notre péché, comme dit saint Paul, toute cette haine a été comme crucifiée et une porte s'est ouverte, qui fait que maintenant, nous avons retrouvé la pleine liberté de dire oui à Dieu. Alors écoutons la suite. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est le Seigneur, Adonai en hébreu, Kyrie en grec, c'est le nom que l'on donne à Dieu, donc Jésus est Dieu. Et de nouveau, ne pensons pas puérilement que dire que Jésus est Dieu, c'est faire de l'ombre au Père, loin de là, parce que si nous comprenons hein, pour la gloire de Dieu le Père, que le Père aime le Fils d'une intensité qui sort de ses entrailles, quiconque aime mon enfant, même moi être humain, donc quiconque aime le Fils, quiconque aime le fruit des entrailles du Père, aime le Père, c'est bien évident. Et dire que Jésus-Christ est Seigneur, c'est rendre gloire à cet amour de Dieu, à cet amour du Père, qui est tellement fort qu'il est une personne libre qui a accepté d'assumer notre humanité et de terminer sur une croix. Ben, je crois que c'est la moindre des choses que l'on puisse faire pour la gloire de Dieu le Père, lui dire merci et de dire que oui, vraiment, cette pensée, ce logos en grec, qui n'est autre que le Fils de Dieu, cette personne libre sortie des entrailles du Père, engendrée, hein, née de Dieu, eh bien, cette personne, elle est vraiment le Seigneur, elle est vraiment, comment dire, l'image de Dieu. Car refuser de dire que Jésus est Dieu, c'est vraiment dire que cet amour si fort qui sort des entrailles du Père jusqu'à nous aimer et à terminer sur une croix n'est pas divin. Qui oserait le dire ? C'est aussi dire que, que le Père n'est pas vraiment amour, car il n'est pas humble, il ne s'efface pas. Le Père, donc, n'est pas capable d'amour, de don. Oserions dire ça ? C'est tout ça, dire Jésus-Christ est Seigneur. C'est vraiment accepter que le Père est ce qu'il est. Il est humble, il se donne. Voilà. Et ici, ce qui est beau, c'est de nouveau regarder cet amour qui le Fils, qui se laisse aimer par le Père, et il accepte la mission que le Père lui donne, et de manifester la gloire du Père. Et après, le Fils accepte de se laisser élever par le Père, mais ce qui élève le Fils, ce n'est pas sa revendication ou des luttes de pouvoir, mais c'est l'amour. C'est l'amour qui le règne dans la Trinité, parce que Dieu est amour. Donc, si tu t'abaisses, je t'élève. C'est vraiment ça. Dans la Trinité, finalement, est vécu quotidiennement, si j'ose dire, quotidiennement, ce que Jésus nous dit de faire. Les premiers seront les derniers, derniers les premiers. Le Père s'efface par rapport au Fils, qui lui-même s'efface par rapport au Père, et cet amour communion qui est l'Esprit Saint, eh bien, se vit pleinement en Dieu. Et l'amour est roi chez Dieu. Et il faut que nous-mêmes, nous apprenions à vivre dans cet amour, que nous apprenions à changer de mentalité. Donc il faut apprendre, comme Jésus nous dit, à être dernier pour savoir être les premiers dans le cœur de nos frères. Donc il faut savoir s'effacer et savoir les aimer comme Dieu a aimé par le Fils, en priant pour eux, en les aimant pour les grandir et pas pour nous-mêmes. Et bien là, nous gagnerons beaucoup de gens à Dieu parce que nous reflèterons à l'image du Christ pleinement l'amour de Dieu. Et nos frères nous en aimeront que davantage parce qu'ils se sentiront vraiment aimés gratuitement. Et derrière cet amour gratuit, ils verront le Fils qui lui-même est le reflet parfait et vivant de l'amour du Père. Il faut vraiment en être conscient. Alors apprenons, demandons toujours plus au Père et au Fils de nous apprendre cet amour communion, cet amour don, cet amour humble qui cherche à élever l'autre. Et je voudrais dire une dernière chose. Quand on dit que Dieu a élevé le Christ au-dessus de tout, c'est dans son humanité aussi. Donc la chair maintenant est en la Trinité. L'humanité fait partie de la Trinité par le Fils. Donc nous sommes contre le cœur du Père. L'humanité maintenant fait partie de cette communion entre le Père et le Fils dans l'Esprit. Vous rendez-vous compte de cette chance que le Père nous offre est le Fils et l'Esprit Saint que Dieu nous offre. Il nous offre de vivre en lui, de cette communion, vraiment de vivre de cette vie d'amour. Donc dès cette terre, apprenons à vivre de cet amour pour pouvoir vraiment le goûter pleinement dans le ciel. Voilà. Donc prions maintenant si vous voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire vôtre cette prière. Gloire à toi, Dieu, parce que tu es amour, l'amour qui humblement se donne à l'autre et reçoit de l'autre pour mieux l'aimer encore. Merci, Père, merci, Fils, merci, Saint-Esprit. Et vraiment, Esprit Saint, toi qui es à nos côtés, toi vraiment qui fais un avec nous, nous qui sommes enfantés par l'amour du Père et du Fils, apprends-nous à rentrer dans cette communion, à goûter cet amour, à en vivre pour mieux le manifester à nos frères. Eh bien, pour cela, oui, apprends-nous davantage à aimer et à prier pour nos frères, à nous effacer devant eux et à les aimer gratuitement. Oui, Esprit Saint, aide-nous. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie, vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes.